République Campus.
From the north to the south, to the east and the west.
On vaincra.
Que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
La musique ambiante est presque toujours nappeuse. La musique ambiante est souvent enveloppante. La musique ambiante est peut-être même cosmique. On dirait que la musique ambiante est enroulée sur elle-même et continue de s'enrouler jusqu'à agglutiner des musiques ancestrales, elles-mêmes remises en route grâce aux technologies sonores dernier cri. La musique ambiante entre en résonance avec l'univers tout en étant high-tech, parce qu'à force d'aligner les adjectifs pour qualifier la musique ambiante, à force de faire tourner ses caractères les uns autour des autres comme dans un nuage, la musique ambiante semble sur le point de complètement mélanger tout ce qui pourrait la qualifier. D'autant plus qu'entre le moment où elle est repartie loin en arrière se chercher des origines millénaires et sa renaissance sur les plateformes de streaming à consommation en solitaire, il paraît qu'elle est devenue de plus en plus apocalyptique. Métaclassique voudrait raison garder et reçoit pour un numéro ambiancé Jean-Yves Leloup, auteur aux éditions Le Mot et le Reste d'une encyclopédie anthologique dédiée à l'ambient music. Nicador Zabaleta à la harpe avec l'orchestre de chambre Paul Kunz dans un concerto pour harpe et orchestre de Handel, concerto pour harpe de Handel, parce que c'est une musique pour harpe du XVIIIe siècle qui est une sorte de point de départ de la musique ambiante dans votre livre Ambient Music. Jean-Yves Leloup, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est un point de départ non pas parce que c'est une musique pour harpe du XVIIIe siècle, mais parce que c'est ce que Judy Nylon a apporté à son ami Brian Eno en 1975 alors qu'il était immobilisé au lit après un accident, et ça a comme fait un peu switcher sa perception de la musique dans une pièce.
Oui, c'est là que est née, ou en tout cas a surgi une sorte d'épiphanie dans son esprit, puisqu'il était assez faible. Semble-t-il, il pouvait peu manipuler le volume du haut-parleur et de l'ampli, ou semble-t-il peut-être ajuster au bruit ambiant extérieur de la capitale londonienne, sans doute au bruit de la pluie qui soit frappait sur le toit ou sur les vitres. Et cette musique de harpe relativement délicate, diffusée à bas volume, presque en équilibre avec les sons extérieurs qui peuvent être très apaisants, hein, de la pluie, en tout cas quand on est à l'intérieur, ont créé une sensation, surtout une situation d'écoute qui l'a frappé. Bon, il était déjà en recherche depuis le début des années 70 à travers son parcours artistique, puisqu'il venait d'une école d'art, à travers son parcours musical, d'autres modes de production et surtout d'écoute de la musique. Mais il faut parfois, vous voyez, quelque chose, une sorte d'épiphanie, une révélation d'ordre très, très, très intimiste, une émotion très particulière pour créer de vraies théories musicales qui engendrent par la suite un genre, ou peut-être plutôt une esthétique, qui est celle de la musique ambiante. Donc c'est l'idée d'une musique comme un lieu, d'une musique comme un environnement sonore, une situation sonore d'écoute dans laquelle à la fois des sons musicaux et des sons non musicaux créent une forme à la fois de teinte, de coloration de l'espace sonore, hein, c'est comme ça qu'il le décrit, et aussi une idée d'ambiance, d'espace, de territoire.
Parce que l'enregistrement qu'on vient d'entendre, il date de 1967, ça veut dire que c'est pas du tout impossible que ce soit ce disque-là,
oui,
Nylon lui a apporté. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est aussi parce que c'est des enregistrements de harpe qui sont très réverbérés, que peut-être est-ce que lui-même s'est beaucoup intéressé au phénomène de delay, est-ce que le feedback permet comme ça de donner lieu au son tout en le diluant en quelque sorte.
C'est difficile à dire, mais cela étant, les effets, alors qu'ils soient naturels, ce soit les effets de réverbération d'une église, d'un temple, d'une cathédrale ou même d'une grotte préhistorique, ou les effets électroniques comme les effets d'écho, de réverbération, font entièrement partie de l'esthétique de la musique ambiante, qu'ils soient associés à des cordes, à un piano, à une trompette. Hein, la trompette parfois très éthérée de Miles Davis fait vraiment partie de cette histoire pionnière de la musique ambiante, même si on ne la décrit pas ainsi sur certains de ces enregistrements. Donc effectivement, les notes, qu'elles soient tenues ou réverbérées, font partie de l'esthétique ambiante.
Est-ce que vous, au moment de faire cette espèce à la fois d'anthologie et d'encyclopédie de l'ambiante musique, comment vous saisissez le concept d'ambiante, puisque ça y est, on a déjà ouvert que la musique éthérée peut être une excellente candidate sans être elle-même revendicatrice de faire ambiante musique?
Vous savez, moi j'écris sur la musique depuis une trentaine d'années et au fond, on s'aperçoit au fil des années que la question du genre musical, elle est excessivement flottante. Alors, bien sûr, vous avez des définitions parfois qui sont assez strictes, mais elles ne sont pas si nombreuses. Bon, la musique sérielle, la musique dodécaphonique, par exemple, ou certaines règles dans la poésie. Mais au fond, la musique, surtout la musique pop ou la musique populaire, puisque l'ambiance est relativement assez proche de la pop culture, même si elle possède une histoire qui est très liée aux avant-gardes, à l'expérimentation, au minimalisme. Il y a d'autres musiques, ce sont des notions très flottantes, donc il faut en quelque sorte les fixer, ou en tout cas essayer de définir un genre ou une esthétique musicale à travers des grandes dynamiques. Donc c'est ce que j'ai fait sur ce livre, je l'ai fait sur d'autres livres, comme un livre sur la techno par exemple, qui ne possède pas une définition stricte. Donc il faut plutôt définir des imaginaires, des dynamiques qui sont plutôt structurelles ou compositionnelles, pour essayer de définir ce qu'est une musique.
En tout cas, il y a des adjectifs flottent aussi d'une zone linguistique à une autre. C'est-à-dire que dire ambient music, ce n'est pas dire exactement la même chose que musique d'ambiance.
Non, puisque toute musique peut devenir souvent une musique d'ambiance si elle est diffusée à bas volume, si elle peut être même réverbérée, si elle est diffusée dans une situation particulière qui peut être celle d'un supermarché ou d'une salle d'attente d'un médecin. Musique d'ambiance, énormément de musiques peuvent... Dès qu'elles ne sont plus hyper tapageuses ou trop agressives, devenir une musique d'ambiance. Donc c'est ça le paradoxe aussi, c'est qu'au fond, aujourd'hui, avec les moyens de diffusion de la musique, une grande partie des musiques que l'on connaît peuvent se transformer ou devenir comme ça une sorte de coloration de l'environnement. Mais toujours est-il que quand même, vous avez plusieurs générations de compositeurs et de compositrices qui ont travaillé à cette idée d'une musique qui est proche d'une forme d'évanescence, éthérée, qui prend les couleurs et les formes d'un environnement sonore immersif, qui tente de déjouer la notion, ou plutôt la perception du temps chez les auditeurs, ou des musiques qui tentent de prendre les contours d'un paysage, d'une certaine forme d'abstraction, comme dans le modernisme classique français la fin du 19e et du début du 20e siècle.
On va en parler évidemment tout à l'heure. Il se trouve que quand vous parlez de paradoxe, Jean-Yves Leloup, ça confine presque à la contradiction dans le cas de Brian Eno quant au statut politique de la musique. Parce que d'un côté, il est proche du Scratch Orchestra, du Portsmouth Symphony Orchestra, qui sont des dispositifs d'avant-garde où on essaye de jouer avec l'inexpérimentation en musique. Et puis, il est quand même intrigué par cette histoire de Muzak, qui est une musique d'ambiance tout industrielle pour motiver les travailleurs à travailler de façon avec plus de rendement. Et lui, quand il fait de l'ambiance musique, il y cherche une forme d'efficacité, il veut dormir davantage avec.
Alors, c'est vrai qu'avant même de définir ou de baptiser, on pourrait dire, il baptise la musique ambiante, parce qu'elle existe en quelque sorte avant lui, avant même de la baptiser, de vivre cette épiphanie en 75, il commence à fabriquer ce qu'on appelle des compilations sur cassette, notamment pour l'aider à s'endormir, parce qu'il est, c'est quelqu'un d'assez un peu angoissé, semble-t-il. Il ne le paraît pas dans ses entretiens, ses interviews. Mais c'est sans doute une musique qui répond aussi à son humeur ou à ses angoisses cachées. Donc effectivement, c'est une musique qui a une valeur fonctionnelle, qui peut aider à la relaxation, à l'endormissement, qui apporte une certaine forme de sérénité, voire même elle peut être affublée d'une valeur thérapeutique selon certains compositeurs qui sont plutôt issus de la vague de ce qu'on appelle le New Age, par exemple. Ça reste à discuter. Hein, mais à l'évidence, certaines musiques apportent certains bienfaits à l'esprit ou au corps humain sans qu'on sache parfois très très bien l'analyser d'une manière purement scientifique, même si certaines études ont été faites. On sait que ça, les notes tenues, le bourdon, peuvent avoir un effet bénéfique. Ça, c'est une évidence. Le reste est un peu flou. Mais effectivement, cette musique a une valeur fonctionnelle qui s'oppose à l'idée de la création, de l'originalité. Et c'est une musique que l'on peut oublier. Hein. C'est comme ça qu'il l'a décrit, une musique aussi intéressante que facile à ignorer. Et pour lui aussi, ça apparaît comme une sorte de provocation à une époque, la fin des années 60 et le début des années 70, où les avant-gardes musicales tentent de remettre en cause beaucoup de préceptes liés à la musique, mais ce sont pour la plupart des avant-gardes qui célèbrent l'autorité de l'artiste, son génie. Et au fond, je pense que c'est quelqu'un qui aussi manie une certaine forme d'humour, de distance. Cette idée d'une musique aussi intéressante que facile à ignorer lui semble aussi posséder une certaine valeur un petit peu impertinente à l'heure où l'on célèbre à la fois le génie ou l'invention de toute une nouvelle génération de compositeurs qui entendent faire table rase du passé. Donc il y a une forme de malice peut-être aussi là-dedans.
Mais malice qui fait que l'utilitarisme est finalement pas incompatible avec l'avant-gardisme.
Non, l'utilitarisme et puis ce qu'on appelle aussi en anglais l'escapism, donc l'échapper. Il le dit, on m'a beaucoup reproché à la musique ambiante et à certaines mêmes musiques de créer une forme d'échappée par rapport au quotidien, par rapport à la question des questions sociétales ou politiques. Et il dit, qu'y a-t-il de mal à vouloir échapper parfois au quotidien? On part en vacances, on se détend, on dort, on a besoin de bulles comme ça, d'échapper ou d'évanescence en quelque sorte. Ça n'empêche pas d'avoir d'être dans la société. Brian Eno, c'est un artiste qui aujourd'hui est très politisé et participe pleinement au débat de la Grande-Bretagne.
Nous commencions l'émission avec de la harpe. Il se trouve que c'est le seul instrument que le vent peut jouer. Et à l'instant, c'était Win on Win, une collaboration entre Brian Eno et Robert Fripp. Cette sensibilité à l'environnement passe par des médiations technologiques. C'est-à-dire, quand il décrit une de ses compositions, il va décrire ça en termes d'action sur les machines qu'il utilise. Nourrir le dispositif de delay composé d'un synthétiseur et de magnétophone, de deux simples lignes mélodiques compatibles et de durées différentes, altérer et traiter à l'aide d'un equalizer graphique le timbre des sonorités obtenues à l'aide du synthétiseur. Ce sont des gestes techniques qui désignent comment on fait cette musique.
Oui, il y a des dispositifs techniques qui sont tout à fait importants dans l'œuvre de Brian Eno, hier comme aujourd'hui, parce que c'est quelqu'un donc qui vient d'une école d'art, qui vient de l'art contemporain, de cette génération qui a inventé le happening, la performance, qui a beaucoup travaillé sur des processus compositionnels, sur des règles de jeu aussi, hein, dans toutes ces avant-gardes, ouais, fin 60, début 70. Donc parfois mettre en... Alors que ce soit pour une performance... que ce soit pour du body art, pour un happening, on définit parfois, ou en tout cas on définissait, des modes d'action et qui peuvent être tout à fait adaptés à de la musique. Donc nourrir effectivement une machine d'effets de delay ou d'effets de boucle, donc un son qui rentre dans une machine, qui rentre dans une autre et qui boucle le son. Il a découvert de la sorte une manière de générer en fait une musique parfois de manière aléatoire en contrôlant certains des paramètres de la musique. Il l'a découvert très tôt avec notamment des magnétophones, enfin un simple synthétiseur qui génère des sons qui sont bouclés sur des magnétophones, qui créent des effets de delay qui sont inattendus. Bon, bien évidemment, d'autres à la même époque l'avaient fait au même temps que lui ou même avant lui, notamment Steve Reich, qui a eu dans ses premières pièces pour magnétophone une influence vraiment très importante sur l'œuvre de Brian Eno, comme d'autres compositeurs de ces courants dits répétitifs ou minimalisme de la fin des années 60. Et encore aujourd'hui, vous voyez, il est l'un des apôtres de la musique dite générative, qui est réalisée à partir de logiciels. Donc il va créer, parfois avec le programmeur Peter Shilvers, des logiciels musicaux qui permettent au public de manipuler certains types de paramètres et de générer de manière presque infinie des formes musicales, souvent très proches de l'ambiante, qui ne se répètent pas avant parfois plusieurs mois ou plusieurs années. Donc créer des conditions de création musicale et sonore plutôt que des interprétations. Et au fond, aujourd'hui, il définit trois types de musique. La musique qui est jouée et interprétée, disons en direct, la musique enregistrée, qui peut être aussi manipulée, et puis la musique générée, qui est encore rare. On ne sait pas très bien si elle ira au-delà d'un intérêt, disons, poli pour ce type de musique, mais il y croit depuis plusieurs années, donc c'est assez proche de ce qu'on appelait aussi la musique algorithmique, mais la musique générative est présente aujourd'hui, et elle est basée un petit peu sur cette idée de processus que l'on lance et on voit ce que ça donne, voilà, de manière très artisanale.
On a l'impression que si la frontière est aussi friable entre ambient musique et ce qu'on appelle l'environnement sonore, c'est quand même pour des raisons techniques. C'est-à-dire que quand vous faites l'histoire de l'arrivée des sons de l'environnement dans la musique, c'est quand même à l'endroit justement où la musique est de plus en plus technologique. C'est-à-dire que c'est dans la musique mixte que l'environnement est accueilli plus facilement.
Certainement parce que certains processus techniques, donc de delay, d'écho, ou une manière que l'on peut avoir de boucler le son d'un magnétophone, ou aujourd'hui avec certains logiciels, permettent de générer des sons de manière aléatoire, mais avec une certaine prévisibilité. Au fond, c'est assez proche des sons des rythmes de la nature. Le son des vagues, vous voyez, il est aléatoire, il n'y a pas une métrique régulière, et pourtant il y a une certaine rythmique. Les sons du vent à travers les feuilles, enfin tous ces sons de la nature, même de l'univers urbain que l'on connaît, obéissent à une certaine régularité, sont aléatoires et pourtant possèdent un certain rythme prévisible. Et au fond, dans la musique ambiante, vous avez ces rythmes aléatoires qui sont parfois recréés ou utilisés. Alors ça peut être des vrais sons de la nature ou ça peut être des instruments qui sont... justement, dont les sons sont générés de manière aléatoire, ou même vous avez aujourd'hui des logiciels ou des plugins pour les synthétiseurs qui permettent d'intégrer une certaine part d'aléatoire dans la création sonore. Et au fond, ça répond certainement à la manière dont on perçoit le monde aujourd'hui. Et c'est aussi la raison pour laquelle cette La musique ambiante, elle peut défier la perception du temps ou modifier la perception du temps chez les auditeurs, puisqu'elle utilise cette forme aléatoire ou semi-aléatoire qui fait que le présent semble sans cesse renouvelé, comme si lorsqu'on écoute tout simplement les tranquilles vagues d'une mer, je ne parle pas d'une mer déchaînée, mais je pense que la plus belle métaphore ou la plus simple métaphore pour comprendre la notion de musique ambiante, c'est d'évoquer la nature apaisante des vagues maritimes, à la fois prévisibles et aléatoires, et qui renouvellent sans cesse la jouissance du temps présent ou de l'aspect serein de la vague.
Ces jeux de nappes vous portent à faire un pont avec certaines musiques mystiques. Et au milieu des albums de la scène électronique ambiante que vous collectez dans ce volume publié par Le Mot et le Reste, vous mettez Les Chants de l'Extase, un disque de 1994 de l'ensemble Secondia, avec des partitions de la compositrice du XIIe siècle, Hildegard von Bingen.
Oui, parce qu'en fait, alors, d'abord, moi, j'ai découvert ça comme beaucoup d'autres dans les années 90, parce que c'est un disque qui a été un énorme succès dans la musique classique et liturgique, mais aussi un succès dans la culture pop et qui a été beaucoup samplé par les musiciens de la scène électronique des années 90, qui justement étaient très proches de l'ambiante. Et en fait, ces voix divines de l'ensemble Secondia ont eu une influence assez importante dans la pop culture des années 90. Mais au fond, si on revient à Hildegard von Bingen ou à la technique du plein chant ou des chants grégoriens ou notamment du chant médiéval qui profite beaucoup de la réverbération des lieux de culte, ces chants et les techniques de chant et de résonance possèdent une tonalité très immersive. Elles défient là aussi la perception du temps. Elles possèdent bien sûr une fonction, c'est de nous rapprocher du divin, mais elles sont en grande partie construites sur des notes vocales tenues et aussi des structures de répétition assez complexes, parfois soit de réponses ou de structures du chant qui vont se renouveler, mais qui vous font perdre un petit peu la notion du temps, qui sont très très loin des structures beaucoup plus, on va dire peut-être beaucoup plus narratives, beaucoup plus construites de la musique classique des siècles suivants.
Donc un extrait de ce disque Les Chants de l'Extase paru en 1994 par l'ensemble Secondia avec les partitions de la compositrice Hildegard von Bingen. Le bourdon comme une sorte de pilier millénaire quand on veut faire l'histoire de la musique ambiante. Vous précisez dans le livre très tôt, page 23, que cette association entre la musique ambiante et les pratiques les plus ancestrales et primitives comme le chamanisme vient d'une association d'idées entre le changement d'état de conscience que la voix, le chant, la musique, la danse ou même l'absorption de substances psychoactives peuvent entraîner dans un contexte extatique et l'idée de rentrer en contact avec les esprits et les forces de leur environnement naturel. Alors la question que j'ai envie de vous poser, Jean-Yves Leloup, c'est que c'est une chose d'avoir des points communs quant à des formes sonores éthérées, mais que c'en est une autre de leur prêter des fonctions sociales quasi équivalentes. Alors est-ce que ça revient à dire qu'une musique qui nous relie à l'environnement est toujours plus ou moins une promesse mystique ?
Oui, enfin, plus ou moins, oui. Disons que tout dépend aussi de celui qui la reçoit et qui l'écoute. Mais effectivement, la musique ambiante possède notamment à travers le bourdon ou les notes tenues ou l'utilisation de sonorités naturelles, le don, on pourrait dire, de contribuer à une sorte d'harmonie avec notre environnement. Alors, ça peut être notre environnement proche, hein, celui d'un appartement, ça peut être celui d'un milieu naturel, ça peut être celui plus symbolique, hein, du monde auquel on appartient. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension spirituelle, parfois mystique, parfois plus, on va dire, spirituelle et profane, hein, c'est le cas de Brian Eno, dans la musique ambiante, qui est une musique qui, à la fois, nous ressource, nous permet à la fois de porter un regard ou une écoute plus attentive au monde qui nous entoure, mais qui permet paradoxalement aussi parfois de nous ressourcer ou de s'écouter soi-même ou de s'écouter. Et c'est tous les paradoxes de cette musique qui peut, dans le cas de ce qu'on appelle le New Age, posséder des prétentions mystiques, religieuses, thérapeutiques, et chez d'autres plus esthétiques et sensibles. Mais effectivement, elle possède une forme de spiritualité. C'est une évidence.
Au point qu'il y a un nom qui permet de faire une espèce de trait d'union entre Pierre Schaeffer et même Keith Jarrett. C'est un gourou qui s'appelait Georges Gurdjieff.
Oui, Gurdjieff qui est un gourou d'origine, enfin gourou, un penseur, un philosophe et gourou réel, hein, d'origine arménienne, si je me souviens bien. Qui a une influence considérable aussi sur certains des grands artistes du XXe siècle, du metteur en scène Peter Brook à Pierre Schaeffer, effectivement, et qui a, semble-t-il, composé de tête toute une série comme ça de mélodies qui peuvent être soit interprétées parfois au piano ou à des instruments plus orientaux, comme le doudouk, ou d'autres instruments liés à la culture arménienne ou orientale. Et qu'il aurait, semble-t-il, toute une série de compositions comme ça qu'il aurait dicté à un pianiste et compositeur dont le nom m'échappe,
Hartmann.
Voilà,
oui.
C'est ça, qui lui a pu poser sur partition toutes les mélodies qu'il avait composées. Bon, il y a beaucoup d'histoires très 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 étranges autour de Gurdjieff, mais c'est une musique effectivement qui possède une valeur donc spirituelle. Là, on est vraiment dans une figure de gourou aussi que. Pour certains historiens du courant ou de la musique New Age, on a pu le considérer comme une sorte de pionnier de cette musique dite New Age, qui, elle, vraiment est marquée par une forme de foi ou de prétention spirituelle et religieuse qui n'est pas présente chez d'autres musiciens comme Brian Eno ou d'autres musiciens qui sont plus proches de la culture pop. Et Gurdjieff, en cela, bien sûr, il a été interprété par Keith Jarrett, il est interprété aujourd'hui par des ensembles de musique du monde, est une figure assez intéressante parce qu'il introduit ce courant dit New Age qui a souvent été assez mal vu par la critique, et on a tout à fait raison, hein, il y a beaucoup de compositions assez racoleuses, peu intéressantes dans la culture New Age, mais il y a des choses qui sont par contre beaucoup plus intéressantes. Beaucoup de musiciens qui ont été affublés de l'adjectif New Age s'en sont beaucoup défendus. Donc c'est tout ce courant, hein, qui a émergé au début des années 70, plutôt proche de la Californie, une sorte de mouvement post-hippie qui est très lié à l'idée de développement personnel et à certains syncrétismes un peu mystiques, qui a très vite dérivé vers une sorte de commercialisation à outrance dans les années 80. Mais toujours est-il que le New Age, avec ses qualités comme ses défauts, fait partie de cette histoire de la musique ambiante. Et donc Gurdjieff, et notamment les transcriptions par Hartmann de ses mélodies, font partie de cette histoire.
Oui, parce que vous vous amusez quand même à signaler que c'est des musiques qu'on peut trouver sous la forme de CD, de bandes son thérapeutiques dans des hôtels, dans des cours de yoga, dans des espaces publics dédiés à la relaxation, comme à des rayons de disquaires. Quoi, ouais.
Oui, mais comme toute musique, la musique ambiante donc, inclut aussi tout un pan d'une certaine, on pourrait dire, de l'économie du bien-être. Donc effectivement, les playlists qu'on trouve beaucoup aujourd'hui sur les sites de streaming, de relaxation,
ou les plateformes,
de spa, de musique d'ambiance, sont faites, parfois réalisées, composées à la chaîne par des musiciens qui sont parfois utilisent une toute une série de pseudonymes, enfin une sorte de production en chaîne comme ça de sons, de textures et de mélodies peu intéressantes d'un point de vue artistique, mais qui peuvent posséder une certaine valeur, disons, thérapeutique. Donc effectivement, dans la musique ambiante, vous avez cet aspect fonctionnaliste hein, qui est très poussé aujourd'hui, qui existe depuis les années 70, qui avait connu un boom dans les années 80 avec des millions de disques vendus de ce courant New Age qui a été très populaire aux États-Unis, notamment au Japon, qui a parfois été indigent, mais qui est redécouvert aujourd'hui parfois par une nouvelle génération, notamment certains disques, on pourrait dire, faits à la maison, plutôt artisanaux, des années 70, témoins d'une certaine candeur ou d'une certaine naïveté, et qui sont redécouverts par les jeunes générations de millennials qui trouvent là une certaine poésie candide dans certains enregistrements de cette musique dite New Age, qui a, hélas, très vite dérivé vers une sorte de fonctionnalisme et de mercantilisme qui a fait des ravages.
Donc en fait, ça veut dire que quand on veut sortir un peu de la tradition occidentale d'une musique discursive ou bien dramatique, faut-il donc aller chercher dans un temps un peu dissolu, un peu éthéré, qui nous serait donc donné par des traditions ancestrales orientales, mais repassé par les post-hippies californiens? C'est ce parcours-là qu'il faut faire.
Moi, ce que je peux dire, c'est que je m'intéresse à la création musicale, aux artistes, à leur génie, à leur aspect visionnaire, mais je m'intéresse tout aussi bien dans mes ouvrages, dans mes articles, à étudier la musique aussi d'un point de vue sociétal, sans toujours la juger.
La musique classique est au-delà, c'est métaclassique, avec David Christoffel.
Parce que vous dites que les cycles hypnotiques du prélude de l'Or du Rhin de Wagner, par exemple, sont planants, mais ne sont que temporairement planants, que c'est des moments suspendus, mais qu'il y a toujours un moment où l'orchestre va se réémouvoir et s'emporter à nouveau.
Oui, dans la musique classique du 19e siècle, surtout de la fin du 19e siècle, vous commencez à voir apparaître des traces comme ça de musique au son, aux notes tenue, qui définit notamment cette perception du temps, qui travaille sur cette idée d'immersion. Mais ce n'est qu'avec les Français, hein, principalement avec Ravel ou Debussy, bien évidemment Eric Satie, que cette notion du temps va vraiment être explorée de manière plus radicale. Mais effectivement, dans l'Or du Rhin, cette introduction, on la retrouve parfois au cinéma. Elle possède, hein, elle est très 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 proche de la musique ambiante, mais bien sûr par la suite, Wagner n'est pas un compositeur ambiante. Tout ça s'anime et est structuré autour d'une forme de narration qui fait que la musique classique au sens de celle du 17e, 18e et 19e siècle n'appartient pas du tout au registre de la musique ambiante. La musique médiévale, oui. Mais par la suite, on va travailler sur cette forme de structuration et de narration qui connaîtra une forme de crise à la fin du 19e.
Donc Wagner serait encore un peu trop romantique et surtout narratif pour pouvoir être ambiante. En revanche, Gustav Mahler est un bon candidat selon Marc Prendergast.
Oui, alors je suis moins spécialiste de Mahler, mais effectivement, Marc Prendergast est un auteur américain qui a écrit sur la musique ambiante. Il y a très peu de livres qui ont été publiés sur ce genre ou cette esthétique musicale. Un livre de David Toop, il y a bien sûr la biographie de Brian Eno, le livre de Prendergast en anglais, voilà, il n'y a pas grand chose où là il essaye de trouver dans plein de musiques différentes, alors qu'ils peuvent être électroniques, celle de Miles Davis ou celle de compositeurs classiques, les traces lui aussi de cette musique ambiante. Bah, chez Mahler aussi, qui est considéré comme une sorte de compositeur pivot entre deux époques, comme Debussy d'ailleurs, semble-t-il commencer à travailler sur des structures temporelles plus diluées, et qui avait déjà touché d'ailleurs Brian Eno, qui est quelqu'un qui a beaucoup apprécié Haydn.
Et dont effectivement le pivot peut être très clair dans cet adagietto de la 5e symphonie. L'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Myung Woon Chung dans l'Adagietto de la 5e symphonie de Gustav Mahler, qui est donc étiquetée par Marc Prendergast comme de l'ambiante musique, mais ce n'est pas péjoratif du tout.
Comme une esthétique ambiante ou une esthétique pionnière, disons.
Vous parliez d'Eric Satie, qui, quand on fait l'histoire de la musique d'ambiance, est toujours mobilisé aussi parce que lui-même avait thématisé la musique d'ameublement, sauf que, en fait, c'est pas sa musique d'ameublement qui date de la fin des années 1910 qu'on va chercher comme preuve, c'est plutôt son piano de la fin du 19e siècle, et notamment, par exemple, les gymnopédies.
Oui, les gymnopédies et les gnossiennes qui... elle semble privilégier une certaine forme de lenteur. On le voit dans les notes qui accompagnent les partitions, lent et douloureux, ce genre de choses. Certaines lenteurs, de l'espace entre les notes, je dirais, une sorte de... comme si chaque note venait ponctuer le temps et l'espace. Enfin, c'est une sensation comme ça, qui n'est pas purement musicologique, mais qui est sensible, que l'on peut ressentir et que la plupart du grand public ressent aujourd'hui. Hein. Ce sont les gymnopédies, les gnossiennes sont les pièces parmi les plus écoutées encore aujourd'hui. Elles sont aussi programmées dans ces playlists qui peuvent exister aujourd'hui sur les sites, les plateformes de streaming, ambiante classique, relax with Debussy, relaxing with Satie. Mais c'est vrai que je crois que sa musique ponctue le temps et l'espace d'une manière lente et sereine, notamment avec cette série de pièces, et d'une manière beaucoup plus affirmée que chez Haydn ou même Debussy.
Parce qu'on a l'habitude de thématiser la brièveté de ces pièces comme un refus de développement, mais on pourrait, de la même façon ou à rebours, thématiser sa lenteur comme un refus d'argumenter, puisque plus on étire l'espace entre chaque note, moins on dit de choses, ou alors on dit autre chose que ce qu'on dit.
L'absence de développement, c'est aussi un des traits caractéristiques de la musique ambiante. C'est une musique irrésolue. Voilà, c'est une belle expression. Et une grande partie de ces pièces de Satie semblent irrésolues et semblent pouvoir être jouées en boucle de manière infinie. Et c'est peut-être ça qui fait la modernité de Satie.
Et alors, vous citez spécialement l'interprétation de Reinbert Deleu, qui est un pianiste qui, effectivement, étire ses gymnopédies à un point où il veut les respirer jusqu'à perdre conscience
ou... Oui, comme certains autres interprètes, il a dit « je veux me fier aux indications réelles de l'auteur, du compositeur », et il a une privilégie, une lenteur accentuée, si je peux dire, des pièces qui est très frappante la première fois qu'on les écoute. Alors, moi, j'ai des collègues pianistes qui ont été un peu... qui n'ont pas beaucoup aimé, beaucoup apprécié ces interprétations qu'ils ont jugées beaucoup trop lentes, alors que Reinbert Deleu les a jugées conformes à la volonté de Satie. Mais c'est vrai que parmi toutes les interprétations qui sont très nombreuses, avec plein d'instruments, des gnossiennes ou des gymnopédies, celle-ci vraiment pourrait être une sorte de naissance symbolique de la musique ambiante. Satie, c'est quelqu'un qui a été une grande influence pour John Cage, qui lui-même a été une grande influence pour Brian Eno. Et avec ce trio du XXe siècle, Satie, Cage et Eno, on a trois des personnalités qui ont œuvré pour une sorte de nouvelle vision de la musique, de son écoute, notamment en travaillant sur la question de l'espace et du temps.
Vous disiez que dans la bibliographie assez réduite qu'on peut mobiliser sur l'ambiance musique, il y avait le livre de Marc Prendergast, mais aussi celui de David Toop. Et David Toop, lui, donne une place très importante à Claude Debussy. Il en fait une espèce de point de départ de ce qui serait donc la musique d'ambiance, avec une scène marquante qui est la rencontre de Debussy avec les musiques jamanaises qui se passent à l'exposition universelle de 1889.
Oui, tout à fait. Semble-t-il, cette exposition universelle a été importante pour beaucoup de compositeurs français et européens à travers la découverte des musiques asiatiques, mais aussi parfois d'autres pays européens.
De Russes aussi,
oui, les Russes. Et c'est une sorte d'épiphanie aussi hein, qui démarre son ouvrage « Ocean of Sound » qui est paru à l'origine en 1994. Et David Toub donc, est à la fois un musicien qui vient des musiques improvisées, qui est aussi un auteur, voit dans cette découverte de Debussy, oui, d'un gamelan, d'un ensemble orchestral de gamelan, une musique qui va ouvrir la perception de Debussy, ou en tout cas qui symbolise le travail de Debussy, notamment à travers toutes ces compositions qui font référence à des figures et des formes très abstraites comme les nuages, la fumée, les reflets, le parfum. Toute une ambiance aussi très fin de siècle, fin 19e, début du 20e siècle, qui est proche des poètes et des écrivains symbolistes, qui privilégient une approche très sensorielle du monde, en tout cas qui tentent de le traduire à travers leurs écrits et leurs créations artistiques, qui tentent d'approcher la pureté, l'évanescence des perceptions sensorielles qui seraient celles de la lumière, du parfum, une certaine forme d'immersion aussi. Donc il y a une ambiance, on pourrait dire une ambiance esthétique dans laquelle l'évanescence et l'abstraction sont assez importantes pour David Toub et qui est parfaitement symbolisée par cette musique très longue. Hein, la musique de gamelan, elle peut durer plusieurs jours, c'est une musique de rituel qui fait perdre un petit peu la notion du temps, qui est très associée aussi à l'espace dans lequel elle est diffusée et qui va, semble-t-il, donc marquer Debussy et qui, par la suite, va composer toute une série de pièces qui exaltent justement ces formes éthérées et ces abstractions et qui est très liée aussi à la notion du paysage et de la lumière.
Alors précisément, cette espèce de sensibilité au paysage et donc à l'environnement sonore, puisque David Toub voit donc dans cette sensibilité environnementale de Debussy l'ouverture de la mer, des reflets dans l'eau, de partitions comme jardin sous la pluie, et il a cette phrase « Une culture impalpable absorbée par le parfum, la lumière, le silence et le son ambiant » développé en réponse à l'intangibilité des modes de communication du XXe siècle. Il y a presque quelque chose comme ça de l'ordre de l'archéologie des médias qui voudrait nous dire que c'est parce que le phonographe arrive, parce que notre rapport à la musique est de plus en plus médié par des outils technologiques, que quelque chose advient de notre rapport au son ambiant.
Oui, très certainement, parce que l'arrivée du son enregistré a fait qu'on a pu, bien évidemment, donc écouter de la musique dans tout endroit, donc la mêler déjà au son environnant. Et aussi, la musique a pu devenir non plus un spectacle, mais une sorte d'adjuvant de notre vie quotidienne, que ce soit à travers la musique, je dirais, mobile, celle de l'autoradio, du Walkman, ou plus tard même du Ghetto Blaster. La musique s'est intégrée un petit peu dans tous les pans, tous les espaces de notre quotidien, alors qu'avant, elle était réservée à l'espace du concert ou de l'interprétation autour d'un musicien. Et donc, le fait qu'elle puisse se mêler, résonner et accompagner certaines de nos actions a sans doute poussé certains compositeurs, certaines compositrices à même accentuer cet aspect environnemental de la musique, bien évidemment. Mais ça, c'est au début du XXe siècle, avec l'arrivée de la musique enregistrée. Aujourd'hui, la musique ambiante, elle pourrait constituer une sorte de contre-modernité au sens où elle nous redonne une certaine forme de durée, de plénitude dans nos vies qui sont très hachées par différentes formes d'action quotidienne. La musique ambiante est assez populaire aujourd'hui à travers les plateformes de streaming parce qu'elle permet aussi d'accompagner le travail sur écran cette approche très multitâche que l'on a naturellement aujourd'hui à travers les ordinateurs, les réseaux sociaux, les coups de téléphone, les multiples choses auxquelles on doit se conformer dans notre quotidien.
Mais ça veut dire que c'est le remède dont c'est le poison, puisque c'est quand même justement un rapport à la musique hautement technologique de la consommer via des plateformes.
Oui, c'est une forme de remède et de contre-modernité technologique. Et vous savez, dans la musique pop aujourd'hui, les morceaux sont très très courts, sont assez formatés, très structurés. Ils ne manquent pas parfois d'inventions esthétiques ou formelles, mais ils doivent accrocher l'oreille très rapidement, condenser un grand nombre d'idées sonores, qu'on les apprécie ou pas, souvent en 2 minutes 30. On est revenu à des temps très courts dans la pop-musique, un peu comme dans les années 60. Et au fond, la musique ambiante qui déjoue notre perception du temps et dont certains morceaux peuvent durer 10, 15, 20 minutes, voire une heure ou voire 8 heures, comme la fameuse pièce Sleep de Max Richter, par exemple, qui est vraiment fait pour être joué le temps d'une nuit pour un public qui est couché dans un lit, et que ce soit à la Philharmonie de Paris ou à l'Opéra de Sydney. La musique ambiante déjoue cette notion fragmentée du temps qui est accentuée aujourd'hui par l'usage des technologies.
Mais elle le fait à l'intérieur de bulles que sont, par exemple, la Philharmonie de Paris ou l'Opéra de Sydney ou le casque audio anti-bruit que l'on met pour écouter sa playlist d'une plateforme de streaming.
Oui, c'est une forme de réclusion temporaire du monde.
Parce que David Toup, à propos de ces expositions universelles, qui sont donc l'effet d'un révélateur sur Debussy, dit « À Paris, les cultures du monde étaient étalées sur une sorte de carte factice comme les plus beaux fruits de l'Empire, preuve vivante des conquêtes et de l'auto-expansion face à l'imminence du déclin. » C'est-à-dire qu'il y a ce que Umberto Eco appelle une insécurité apocalyptique qui se trame dans ce rapport aux cultures.
Oui, c'était effectivement, il décrit cette ambiance de la fin du 19e comme quelque chose d'une ambiance fin de siècle, comme on le dit souvent, et qui fait écho à la situation actuelle aujourd'hui, l'angoisse écologique, la question de la pandémie, le confinement, ont remis la musique ambiante sur le devant de la scène ces courtes dernières années. Les jeunes générations sont très sensibles à cette musique, qui sont parfois les plus touchées par ces formes d'angoisse existentielle et très liées à notre époque. Donc cette dimension aussi thérapeutique de la musique ambiante est très présente aujourd'hui. Alors on peut la critiquer parce que c'est une forme de réclusion, mais elle semble apporter en tout cas un certain répit à ceux qui l'écoutent. Et donc ça fait écho à cette situation très fin de siècle. Mais bon, l'ambiance n'est pas du tout la même entre 1889 et 2022. Mais toujours est-il que
c'est quand même un répit qui a le goût du symptôme de fin du monde qui traîne. Ouais.
Disons que David Toup décrivait des artistes et des dandys à l'image du personnage de Des Esseintes comme des gens qui finissaient par se perdre dans une sorte de bulle sensible, de sons, de lumière et de parfums pour échapper aux vicissitudes du monde. Effectivement, cela peut faire écho à la manière dont on écoute la musique ambiante aujourd'hui, mais ça serait un petit peu très réducteur de la considérer juste comme une sorte de simple bulle d'échappée. Elle possède une certaine valeur bénéfique et thérapeutique pour ceux qui l'écoutent, et effectivement, elle répond aux angoisses actuelles.
Écoutons ce que David Toup, musicien, peut faire dans un album qui s'appelle Apparition Paintings, paru en 2020.
Thank you.
dans cet album de 2020, Apparition Paintings, David Toup utilise tout plein de sources, aussi bien instrumentales que de field recording, d'archives, de séquences régies par l'informatique. Et toute cette variété sonore, Jean-Yves Leloup, vous la considérez quand même comme de l'ambiante musique, avec l'argument qu'elle parvient à créer l'illusion d'un monde.
Oui, en fait, une grande partie de la musique ambiante, on n'en a sans doute pas assez parlé dans cette émission, elle échappe à cette idée d'une musique purement planante, thérapeutique, aux notes purement tenues. Effectivement, vous avez toute une série de groupes de compositeurs dont fait partie David Toup. On pourrait citer Future Son of London, qui dans les années 90 ont été un groupe électronique assez important dans ce genre, qui vont plutôt créer l'idée d'un monde, effectivement, d'un monde sonore immersif, à l'aide de structures, de rythmiques ou de mélodies, certes irrésolues, mais qui ne possèdent pas cet aspect, peut-être parfois assez lisse, que peut receler la musique ambiante ou la musique New Age. Donc c'est créer un monde de sons, voilà, littéralement immersif, dont certaines structures semblent obéir à l'aléatoire des sons de notre quotidien ou du monde urbain ou du monde extérieur, et voilà, et qui possède cet aspect qui, là aussi, déjoue la notion et la perception du temps, mais d'une manière très différente de cette technique des notes tenues, qui est aussi un cliché de la musique ambiante. C'est-à-dire qu'on peut procéder, on peut approcher l'idée de la création d'un territoire sonore autrement que par des notes lentes et tenues d'un synthétiseur. Et donc David Toup est assez proche de cette idée-là. Et dans son livre Ocean of Sound, il décrit aussi, on pourrait dire, une approche ambiante de la musique, puisqu'il va traiter dans son livre pas seulement de musiciens estampillés ambiantes, mais de bien d'autres musiciens qui travaillent sur des structures qui sont... voilà, irrésolu, immersive et irrésolu, si on veut parler avec des mots assez sensibles qui sortiront de la pure musicologie.
Mais est-ce qu'il y a pas, parce que j'évoquais une sorte de sophisme tout à l'heure qui consisterait à dire, voilà, une musique ambiante peut être bourdonnante, donc une musique bourdonnante serait ambiante et mystique au passage. Est-ce que ce serait pas pareil avec la musique apocalyptique, parce que on pourrait dire, l'environnement s'effiloche, tous les sons qui donnent l'impression de s'effilocher seraient donc des sons environnementaux ou quelque chose comme ça?
En tout cas, on pourrait dire que certaines compositions environnementales qui reproduisent ou qui semblent s'inspirer de la vitalité de notre environnement sonore peuvent être associées à l'ambiance et peuvent créer cette sensation à la fois de bulle et d'immersion, j'arrive à répondre à votre question hautement complexe.
Bah, ma question, en fait, elle porte sur l'alignement allégorique des désintégrations. Clin d'œil à The Disintegration Loops de William Basinski.
Oui, alors Basinski, c'est une musique. Alors lui, là, c'est un compositeur donc, qui avait travaillé notamment sur des boucles donc de musique enregistrée, qui venait plutôt de sortes d'easy listening, de fanfare, de musique très classique. Il avait travaillé sur ces boucles, réalisé comme ça des boucles de bandes magnétiques qu'il a réécoutées 10, 15 ou 20 ans par la suite, en s'apercevant que lorsqu'il jouait ces boucles de bandes magnétiques, elles étaient très abîmées, elles s'effaçaient peu à peu, et donc il a commencé à travailler, à enregistrer en fait la désintégration progressive de ces boucles sonores venu de la musique populaire, mais qui à chaque passage sur la tête de lecture témoignait de cette dégradation du temps et des textures sonores qu'il a par la suite retravaillé. Donc ce sont des musiques des années 2000 qui l'ont vraiment fait connaître et ont amené cette l'ont fait connaître auprès du public de la musique expérimentale et de la musique ambiante, avec donc ces boucles désintégrées, hein, si on veut traduire ça de manière littérale, qui, selon lui, possèdent, alors elles ont une valeur assez mélancolique, hein, que peut avoir la musique ambiante, qui viennent attester du passage du temps, cette notion de la perte de la mémoire, le passage du temps, et aussi la mélancolie qui en découle, et est une esthétique de la musique ambiante qui est une partie de celle de ces 20 dernières années. Dans les années 70-80, les compositeurs ne travaillent pas sur cette question de perte du temps, cette forme de mélancolie, alors qu'elle est beaucoup plus présente aujourd'hui dans des cultures plus populaires ou chez des musiciens comme William Basinski qui viennent plutôt des avant-gardes.
Et aussi parce que au moment où il fait ça, il est à New York le 11 septembre 2001 et il va filmer ce qui se passe après la chute des tours.
Oui, pour lui, c'est cette série de pièces qui attestent la dégradation, l'effondrement d'un son enregistré fait écho à la situation de l'époque, puisque son studio est situé à Manhattan, ou en tout cas non loin de Manhattan, et lorsqu'il monte sur le toit de son immeuble, il a observé l'effondrement des tours jumelles. Donc là, aussi, une partie de la musique ambiante de ces 20 dernières années possède souvent une valeur plus sentimentale, sans que ce soit péjoratif dans mon aspect, une émotion qui était peut-être parfois moins présente dans les années 70 ou 80. Il y a cette prise de conscience, oui, de l'effondrement. Alors ça peut être celui des tours, mais aussi celui de la question écologique, enfin de notre environnement écologique, puisque les sons de la nature aujourd'hui sont particulièrement présents dans les compositions ambiantes, et puis beaucoup d'artistes et de musiciens travaillent sur l'idée du paysage sonore qui fait écho aussi à cette dégradation de notre contexte écologique. Donc la musique ambiante est porteuse depuis un peu moins de 20 ans d'une certaine forme de gravité et de mélancolie qui était parfois présente chez Brian Eno, mais d'une manière... Chez Eno, il y avait une sorte parfois de douce nostalgie de l'enfance ou des territoires de son enfance qui apparaissait dans certains de ses disques et de ses albums. Aujourd'hui, l'émotion est sans doute plus forte chez les compositeurs et les compositrices de la musique ambiante.
Mais on va terminer cette émission, on n'avait pas dit qu'elle se finirait bien après tout, par The Disintegration Loops de William Basinski. Merci beaucoup, Jean-Yves Leloup.
Merci.